Donc voilà, pour cette réunion publique de lutte ouvrière à Hendaye, on s'est installé comme ça pour que ça soit une réunion d'échange, de débat et de discussion. Voilà, donc je suis Jacqueline Huard, voilà, je me présente sur la liste de lutte ouvrière. Et je vous présente Jean-Pierre Mercier, qui conduit la liste lutte ouvrière avec Nathalie Artaud. Jean-Pierre Mercier, ouvrier à PSA. Et donc, je vous propose, après l'introduction sur la situation dans le monde du travail, voilà, de discuter et de débattre entre nous.
Bien, je ne sais pas si j'ai vu tout le monde. En tout cas, bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Merci d'être venus à cette réunion dans le cadre de l'élection européenne. Comme l'a dit Jacqueline, je vais dire quelques mots sur la situation générale, la situation sociale et politique, et puis sur le monde du travail. Et après, on pourra passer à un débat ouvert où aucune question n'est taboue et on se dira toutes les choses, les remarques, les désaccords. Je vais commencer par ce qui s'est dit par Emmanuel Macron. Bon, il a fait une conférence jeudi soir. Je ne sais pas, bonjour.
Bonjour.
T'as rien raté encore.
Tant mieux.
Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, même si vous ne l'avez pas vu, vous avez en entendu parler. Pas de surprise dans ce qu'il a annoncé. Les plus riches de ce pays, les ultramilliardaires, ne vont pas du tout être égratignés par les futures mesures. Ça, c'est certain. Ce qui, par contre, est à retenir, et ça, c'était pas étonnant qu'il allait annoncer ça, ceux qui vont payer d'une manière ou d'une autre, c'est nous, les travailleurs, les chômeurs, les retraités du monde du travail, quelles que soient les mesures qui vont être mises en route. De toute façon, ça sera nous qui paierons. Alors, il a parlé essentiellement, ce qu'on peut y retenir, c'est Emmanuel Macron, pour soi-disant augmenter le pouvoir d'achat, il faut qu'on travaille plus et plus longtemps. Voilà, c'est la même ritournelle qui dure depuis des années et des années. C'est la ritournelle, la petite musique patronale bien connue. Et puis, il y a aussi la musique sur la dépense publique, enfin, la réduction de la dépense publique. Ça veut dire derrière des suppressions d'emplois dans la fonction publique. C'est sabrer les budgets qui sont essentiels pour notre vie quotidienne, c'est-à-dire le budget de la santé, le budget de l'éducation nationale, le budget de la culture, des loisirs. C'est essentiellement dans ces budgets que Emmanuel Macron va faire des réductions budgétaires pour financer, soi-disant, 5 milliards en moins d'impôts sur le revenu. Donc ça veut dire qu'en termes de pouvoir d'achat, pour nous, les travailleurs, il y a zéro pointé. Et au contraire, ça va être encore des sacrifices, ça va être encore des efforts. Encore une fois, on n'est pas étonné, puisque avant l'annonce du grand débat, il avait affirmé haut et fort que de toute façon, la feuille de route du gouvernement allait continuer à s'appliquer. Et là, il confirme ce choix-là. Ça veut dire que nous, du côté des travailleurs, eh bien, il faut que les travailleurs mettent en avant leurs intérêts et mettent en avant leurs exigences. Et on va, nous, lutte ouvrière, on utilise cette élection européenne justement pour donner l'occasion au monde du travail de pouvoir s'exprimer d'abord son mécontentement et sa colère vis-à-vis du gouvernement, mais aussi essentiellement mettre en avant leurs intérêts à travers un programme de lutte, à travers des objectifs de lutte. Alors, on est dans une campagne européenne, donc même si c'est loin de tout ça, nous, notre projet européen, il est à l'opposé du projet européen de Macron ou de Le Pen. Pour nous, l'Europe, une Europe des travailleurs, c'est une Europe qui serait débarrassée de toutes les frontières, qui serait débarrassée de tous les murs, de tous les barbelés, contrairement à ce que Emmanuel Macron a osé encore proférer dans son interview, un discours anti-migrants, voilà, où il joue sur le terrain de l'extrême droite, il joue sur le terrain du Front National, sur dresser les plus pauvres les uns contre les autres. Ben nous, on se situe à l'opposé de ce discours. On se situe sur une Europe véritablement unie, véritablement débarrassée. Quand on parle d'Europe, nous, on parle du Portugal jusqu'à la Russie et la Turquie. C'est l'ensemble des pays européens. On est internationaliste. Ça veut dire que pour nous, par-delà les frontières, on considère et on défend cette idée très importante que les travailleurs ont des intérêts à commun, ont des intérêts communs à défendre face à leur patron, face aux capitalistes et face à cette grande bourgeoisie qui domine la société, qui domine l'Europe. L'Union européenne, les frontières n'ont jamais protégé les travailleurs des crises économiques, elles n'ont jamais protégé les travailleurs de quoi que ce soit. Les frontières permettent aux plus riches de cette société de dresser les peuples les uns contre les autres, de dresser les travailleurs les uns contre les autres. Alors l'Union européenne, c'est un constat qu'on fait, et c'est pas étonnant, est une machine de guerre contre les travailleurs. Cette Europe, c'est une Europe des capitalistes qui a été construite par les capitalistes, par les plus riches, pour les plus riches, pour les capitalistes. Et dans cette Europe, il y a bien des différences entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches, y compris entre eux, les gouvernements. Bah, il y a ceux qui dirigent l'Europe et puis il y a ceux qui la subissent aussi. La France et l'Allemagne, mais la France aussi, hein, nous on ne l'oublie pas, font partie de ces deux pays les plus riches qui dominent l'Europe et qui font la loi sur les pays les plus pauvres, comme la Grèce, le Portugal ou l'Espagne, ou des pays d'Europe de l'Est. Nous, on est à la fois internationaliste, c'est-à-dire que on est communiste. Et on est convaincu que, bien sûr que cette Europe est une Europe contre les travailleurs, est une Europe pour les riches, mais tout comme l'État français est aussi une machine de guerre contre les travailleurs. Et on le voit bien dans les différentes mobilisations qu'on a pu voir très récemment, évidemment la mobilisation des Gilets jaunes, mais la grève des cheminots, les mobilisations contre la loi travail, l'État français et toutes les institutions françaises travaillent pour les plus riches de ce pays, pour ces bourgeois, pour cette grande bourgeoisie, tout comme l'Europe travaille et protège les intérêts des plus riches. Alors, on se présente dans ces élections européennes parce qu'on veut surtout pas tomber dans le piège que veulent nous tendre les grands partis de ce pays. Vous savez, là on a déjà le débat qui a démarré depuis quelques temps. Vous avez d'un côté les soi-disant les pro-européens et soi-disant les anti-européens. Les pro-européens, bah, c'est Emmanuel Macron qui se targue de défendre y compris une Europe sociale, ce qui veut strictement rien dire dans sa bouche. Pro-européens, voilà, et puis vous avez de l'autre côté les Marine Le Pen et compagnie, qui, au nom du souverainisme, au nom du nationalisme, prônent une Europe renfermée sur elle-même, avec des nations qui se renferment sur elles-mêmes. Nous, on ne veut pas tomber dans ce débat, est-ce qu'il faut sortir ou est-ce qu'il faut rester dans l'Europe. Vous savez, quand on regarde ce qui se passe en Angleterre, de l'autre côté de la Manche, ils sont en train d'essayer de faire le Brexit, on ne sait même pas s'ils vont y arriver. Mais en ce moment, ce n'est pas les capitalistes anglais, ce n'est pas les bourgeois anglais qui payent la note. C'est les travailleurs anglais qui payent la note du Brexit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on devait sortir de l'Europe, eh ben, ça serait nous, les travailleurs, qui paieraient la note de cette sortie de l'Europe. Et si on reste dans l'Europe, c'est les travailleurs qui payent aussi la note. C'est-à-dire que c'est un marché de dupes, cette affaire-là. Qu'on reste dans l'Europe ou qu'on sorte de l'Europe, de toute façon, les riches, les capitalistes nous feraient payer la note d'une manière ou d'une autre. Alors, on se présente dans ces élections, nous, Lutte ouvrière, justement pour proposer un troisième choix, un autre choix, un choix différent aux travailleurs, un choix qui leur permette de mettre en avant leurs intérêts de classe, leurs intérêts de travailleurs, que face au gouvernement français, face à tout ce qui se passe en France, mais à travers l'Europe, eh bien, il faut qu'on défende nos intérêts, il faut qu'on défende notre peau dans cette affaire-là. Et ça, nous, on se présente pour... on présente un programme de lutte aux travailleurs, des objectifs de lutte pour qu'ils défendent leurs intérêts. Alors, on est convaincu et on le dit, et on le dit à chaque fois qu'on se présente dans les élections, c'est pas par le vote que les travailleurs peuvent changer leur vie. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Le vote, ça peut servir à exprimer une idée, ça peut servir à se compter, ça peut servir à prendre conscience qu'on est unis, qu'on est organisé, qu'on défend les mêmes intérêts, mais c'est pas par le vote qu'on peut faire changer la vie. La vie, pour les travailleurs, ils peuvent leur vie, ils peuvent la faire changer à travers leur lutte collective, à travers leur mobilisation. Et on le voit de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, ce qui s'est passé et ce qui se passe encore actuellement, c'est bien par leur mobilisation qu'ils ont réussi à mettre dehors Bouteflika. Il y a aussi au Soudan des mobilisations énormes, des centaines de milliers de personnes, de manifestants qui descendent dans les rues pour protester contre la dictature. Voilà, ils ont obtenu quelques succès, et c'est bien par les mobilisations qu'on peut faire changer les choses pour nous, les travailleurs. C'est sûrement pas par en haut que ça peut changer. Et on le voit en France, le mouvement des Gilets jaunes a permis d'exprimer cette colère sociale qui existait dans le pays à travers leur mobilisation, essentiellement autour de la question du vivre dignement. Ils ont réussi par leur mobilisation à mettre au cœur du débat la question essentielle du pouvoir d'achat, par exemple. Le pouvoir d'achat, c'est les salaires, c'est pouvoir vivre dignement de son travail, c'est de pouvoir vivre dignement de sa pension de retraite, c'est de pouvoir se faire soigner dignement, c'est pouvoir essayer que nos anciens, nos parents, nos grands-parents, ils puissent se faire accompagner dignement vers la fin de leur vie. C'est faire en sorte que nos enfants puissent avoir une éducation au minimum, un minimum d'éducation, que le personnel enseignant puisse faire son travail correctement. Et on voit bien que en France, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à vivre dignement de tout ça. Pourtant, la France est un pays extrêmement riche. C'est une des principales puissances mondiales au niveau économique. Et on l'a vu à travers l'incendie de Notre-Dame de Paris. En moins de 48 heures, 1 milliard d'euros est tombé sur la tête. 1 milliard. Alors, il y a aussi des gobelets qui tombent. Je t'ai fait perdre.
Je m'en remets pas.
C'est normal. On a vu au-delà du milliard qui est tombé, c'est qui a mis ces milliards. Et avec quelle facilité ces familles bourgeoises ont mis ce milliard sur la table. Et personnellement, moi je suis bien content qu'ils aient mis ce milliard sur la table, parce que on a pu voir à BFM, à LCI, la famille Pinault, la famille Arnaud, la famille Bettencourt, la famille XY. Ce sont des familles. Et depuis des années et des années, Arlette Laguiller, Nathalie Arthaud, à Lutte ouvrière, on parle de cette bourgeoisie qui vit dans le luxe, qui nage dans les milliards. Alors quand on parle de grande bourgeoisie, souvent les journalistes ou certains éditorialistes, c'est le vieux langage, c'est poussiéreux, etc. Non, c'est pas si poussiéreux que ça. Ces familles, elles existent, elles sont ultra riches. Bon, dans le vocabulaire. Maintenant, ils appellent ça les ultra-riches. Bon, c'est cette bourgeoisie, c'est ces familles qui, très facilement, ont réussi à mettre plusieurs centaines de millions sur la table. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils vivent ça tous les jours. Ils vivent comme ça. C'est leur train de vie, c'est leur mode de vie. C'est des gens qui ne travaillent jamais, qui n'ont jamais travaillé de génération en génération. Bernard Arnault vient d'acheter un yacht de luxe. 130 millions. Et pour lui, c'est strictement rien du tout, 130 millions. C'est comme si nous, on s'achète un vélo, etc. C'est exactement pareil. Et ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que pour que ces gens-là, ces milliardaires, ils puissent continuer à vivre dans le luxe, à accumuler les centaines de milliards qu'ils ont, les dizaines de milliards qu'ils ont, il faut que nous, on crève. Il faut que nous, on se fasse licencier. Il faut que nous, nos salaires, nos pensions de retraite, soit bloqué et diminue. Il faut que les services publics soient cassés et détruits. Il faut que nous, on en crève de cette société-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça qu'on dit dans cette élection européenne. En tout cas, on s'en sert pour faire prendre conscience aux travailleurs que dans cette société, oui, elle est dominée par une bourgeoisie qui commande tout dans cette société et qui s'accapare l'ensemble des richesses que nous, les travailleurs, on produit. On produit des richesses, toutes les richesses, et on fait fonctionner toute la société. On fait fonctionner toutes les entreprises. On fait fonctionner tous les services publics. Si on n'était pas là, il n'y a rien qui existe, il n'y a rien qui tourne, il n'y a aucune richesse qui est créée. Alors, pour défendre ses intérêts, il faut avoir conscience de plusieurs choses. Et ce qu'on essaye de défendre dans cette élection européenne, il faut que les travailleurs ils aient conscience d'abord qu'ils ont des intérêts à défendre, qu'ils ont leur peau à défendre dans cette affaire-là. Parce que je leur dis quand même, cette bourgeoisie, pour qu'elle soit aussi riche que ça, il faut qu'elle mette en coupe réglée l'ensemble de la société et qu'elle se comporte comme un rouleau compresseur. Voilà. Et c'est ça qu'il faut, c'est contre ça qu'il faut se battre. Alors, pour défendre ses intérêts, il faut avoir conscience d'abord contre qui on doit se battre et pourquoi on doit se battre. Contre qui on doit se battre, on entend souvent, beaucoup là en ce moment, dans les manifestations des Gilets jaunes, mais qui est aussi relayé par des partis de gauche, voire à la gauche de la gauche, cette idée Macron démission. Il faut virer Macron. Bon. Nous, à Lutte ouvrière, voilà, ça c'est un point de désaccord. On n'en fait pas un objectif de lutte que Macron y démissionne. Si Macron il devait démissionner à la suite d'un mouvement social, bien sûr que ça serait considéré comme un succès. Mais ça ne réglerait absolument pas du tout le problème. Le problème, il resterait entier. Parce que le problème, c'est que derrière Macron se cachent justement ces familles bourgeoises, ces ultra-riches qui possèdent les grandes entreprises de ce pays et qui possèdent toute l'économie du pays. Et c'est eux qui font la pluie et le beau temps sur l'ensemble du pays. C'est eux qui sont les maîtres. Ce n'est pas Macron qui décide. Macron, lui, son boulot, c'est de mettre en place une politique pour défendre les intérêts des riches. C'est ça, son boulot. Alors, il a intérêt à bien le faire, parce que, voilà, mais c'est vraiment ça, son boulot. Je vais donner un exemple pour illustrer un peu ce que je dis. Vous vous souvenez sans doute de Nicolas Hulot, ce ministre de l'écologie, numéro 2 du gouvernement de Macron, il n'y a pas si longtemps, qui a démissionné, parce qu'il avait en face de lui des lobbies, c'est son aveu, il avait des lobbies contre lesquels il ne pouvait pas lutter. Alors, c'est quoi, ces lobbies? Bah, ces lobbies, c'est ces familles bourgeoises. On en revient toujours aux mêmes gens. C'est les actionnaires d'Areva, du nucléaire. C'est les industriels des pesticides. C'est les industriels du plastique. C'est les industriels de l'automobile, du pétrole. C'est ces actionnaires ultra-riches, ces milliardaires, qui imposaient à Nicolas Hulot de faire une politique pour défendre leurs intérêts d'industriels. Et il a dû démissionner avec cet aveu. Moi, je ne peux pas lutter contre ces gens-là, contre ces lobbies. Bon, ça veut dire que les capitalistes de ces grandes entreprises ont plus de pouvoir qu'un ministre d'État, ministre numéro 2 du gouvernement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que derrière, un politique dans ce gouvernement, même s'il est intègre, de toute façon, il ne pourra faire qu'appliquer les décisions et la volonté des actionnaires des grandes entreprises. Parce que cette société, elle fonctionne comme ça. Alors, virer Macron, oui, pourquoi pas. Macron, il est responsable de la politique anti-ouvrière du gouvernement. Mais ça ne résoudrait pas du tout le problème. Et on a encore un petit exemple en Algérie. En Algérie, Bouteflika, les manifestations de rue ont eu raison de Bouteflika. Il ne va pas se représenter pour un cinquième mandat. Mais qui est-ce qui a été mis à la place? C'est un de ses meilleurs copains, un de ses meilleurs conseillers, ou je ne sais pas, je ne me souviens plus de son nom, Ben Salah, je crois. Et voilà. Et il est là au moins pour 90 jours. Voilà. Et le problème pour les travailleuses et les travailleurs en Algérie reste entier. Ça veut dire que nous, on ne crie pas, on ne donne pas comme objectif de lutte Macron démission, Macron dégage. Nous, il faut qu'on s'attaque aux capitalistes, aux grands de ce monde, aux milliardaires. C'est eux qui doivent dégager. C'est les travailleurs doivent prendre conscience que tant qu'ils ne contesteront pas cette domination de la bourgeoisie sur l'ensemble de la société, tant qu'ils ne contesteront pas que cette bourgeoisie elle doit arrêter de commander dans la société, on réglera aucun problème socio, politique, économique, écologique dans cette société. Alors, il faut aussi, pour défendre ses intérêts, avoir conscience pourquoi on doit se battre. Alors, dans cette élection européenne, on défend un programme de lutte. On défend des objectifs de lutte, justement, qui nous paraissent incontournables quand les travailleurs auront repris confiance dans leur lutte collective, auront repris confiance dans leur force collective, dans leur force sociale quand ils se mobiliseront. Et ce programme de lutte, il sort du terrain, il sort de ce qui se passe dans le pays. C'est trois points assez simples. Premier point, c'est sur le pouvoir d'achat, voilà, qui a été révélé par, enfin qui a été révélé, qui a été mis au cœur du débat par le mouvement des Gilets jaunes. C'est pour nous régler le problème du pouvoir d'achat, c'est augmenter les salaires, augmenter les allocations, augmenter les pensions d'invalidité, augmenter les pensions de retraite. Ça commence d'abord par ça. Et ça veut dire s'attaquer au profit des grandes entreprises. C'est ça que ça veut dire. Mais augmenter les salaires et les pensions de retraite, il faut que les travailleurs ils aient conscience qu'il ne faut pas se limiter à ça. Si demain on devait connaître une grève générale, un grand mouvement social comme en mai 68 ou comme en juin 36, il faut que les travailleurs ils prennent conscience que, bien sûr, il faudra arracher des augmentations de salaire. C'est le début du début. Mais il faudra imposer que les salaires augmentent et les pensions de retraite augmentent en fonction de l'augmentation des prix. Quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes qui a démarré le 17 novembre contre l'augmentation de la taxe sur les carburants, la taxe, assez rapidement, elle a été gelée provisoirement pour un an par le gouvernement. Très bien. Premier succès. Ça règle en rien le fait que le cours du gasoil, le prix du litre de gasoil ou d'essence, là, je ne sais pas si vous avez vu, parce que de toute façon, tout le monde fait son plein, c'est parti en flèche. C'est parti en flèche parce qu'il y a l'Iran, parce que voilà. On peut nous dire tout ce qu'on peut nous expliquer, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que nous, on paye à la fin. C'est pas les capitalistes, c'est pas les actionnaires de Total qui payent ce qui se passe en Iran. C'est nous, les consommateurs, à la pompe. Donc il faut imposer cette mesure de salut public, cette mesure qui seule peut protéger à l'avenir notre pouvoir d'achat, c'est d'imposer que nos salaires et nos pensions de retraite augmentent en fonction de l'augmentation des prix, parce que sinon, ça sera toujours nous qui serons les dindons de la farce. Et ça, nous, on ne veut plus qu'on soit les dindons de la farce. Sur le deuxième objectif de lutte, sur le chômage, qui est un vrai cancer qui ronge toute la société, même si les chiffres du gouvernement annoncent une baisse, légère baisse du chômage, on sait que c'est pipeau, on sait que les chiffres ils sont truqués, parce que de toute façon, nous, on le vit autour de nous, on le vit dans nos familles, on le vit parmi nos voisins et parmi nos amis. Le chômage ne fait qu'augmenter, en tout cas, la précarité ne fait qu'augmenter. Quand on retrouve du boulot, on a la chance de retrouver du boulot, c'est jamais... Très rarement en CDI, c'est tout le temps des petits boulots, de l'intérim ou du CDD ou d'autres contrats. Il faut imposer, il faudra que les travailleurs imposent l'interdiction des licenciements, l'interdiction des fermetures d'usines, l'interdiction des suppressions d'emplois et imposer la répartition du travail entre tous. Parce que notre objectif, ce n'est pas celui que défend Macron et les patrons, ce n'est pas celui de travailler plus. Quand on voit qu'il y a 6 millions de chômeurs en France, mais c'est une honte. Enfin, c'est une honte, c'est un vrai culot qu'il a, une vraie arrogance, d'oser proposer tranquillement que ceux qui travaillent, ceux qui ont la chance d'avoir un boulot, il faut qu'ils travaillent encore plus et encore plus longtemps. Ça veut dire que quand on a 62 ans, il faudrait qu'on aille jusqu'à 63, 64, 65. Alors les jeunes, alors, comment ils peuvent trouver du boulot, les jeunes, si les anciens, ils gardent les places? Impossible. Et comment ça se fait que ils puissent proposer qu'on travaille encore plus dans la semaine. Ça, c'est alors qu'il y a 6 millions de chômeurs. Non, normalement, il faut que imposer que les chômeurs, ils entrent dans les entreprises, ils se fassent embaucher. Et ça, c'est la seule manière, mettre fin à l'hémorragie des licenciements, les interdire, et puis imposer le fait que les patrons embauchent les chômeurs. Et puis, il y a un troisième objectif, et ça qui est, c'est peut-être celui qui est le plus important. Les Gilets jaunes, à leur manière, ils ont mis le doigt dessus quand ils parlaient de contrôler l'argent public, l'utilisation de l'argent public. L'utilisation de l'argent public, on va se le dire entre nous, c'est l'argent de nos impôts à nous, les travailleurs, et puis les retraités. Les riches, ils en payent de moins en moins d'impôts. Donc quand on parle de l'argent public, c'est notre argent. C'est même pas celui des riches, c'est même plus celui des riches. Oui, c'est légitime de poser la question de contrôler l'utilisation de l'argent public. Et c'est tout autant légitime de poser le problème, la question de contrôler l'argent privé. Je travaille dans un groupe multimilliardaire, le groupe PSA, qui fabrique les voitures. En 2018, l'ensemble des travailleurs, les sous-traitants, les intérimaires, les CDI, ont fabriqué 3,3 milliards de bénéfices pour l'année 2018. Ces 3,3 milliards de bénéfices, c'est uniquement les actionnaires qui vont en décider de leur utilisation. Et c'est entre autres la famille Peugeot, une de ces familles ultra riches. Alors eux, ils n'ont pas donné, parce que avant qu'ils donnent quelque chose, ceux-là, il faut se lever de bonne heure. Mais c'est eux-mêmes qui vont décider de l'utilisation de ces milliards. Tant vont aller dans la finance, dans la spéculation, tant vont aller pour racheter d'autres entreprises, tant vont aller dans leur poche pour continuer à vivre dans le luxe, etc. Bah, ça serait logique, ça serait légitime que ça soit ceux qui ont fabriqué ces milliards, c'est-à-dire l'ensemble des travailleurs, qui puissent décider, avoir leur mot, c'est-à-dire mettre leur nez dans les comptes de ces entreprises pour contrôler l'utilisation de ces milliards et contrôler les décisions qui sont prises dans les conseils d'administration de ces grandes entreprises. Alors, ces objectifs de lutte, ce programme de lutte, on fait tous le constat qu'il faudrait des mobilisations énormes, puissantes, profondes, de l'ensemble du monde du travail pour que ces objectifs soient imposés, non seulement au pouvoir politique, mais aussi aux représentants des actionnaires et puis aux milliardaires et aux bourgeois. On fait tous le même constat, et là-dessus on est d'accord que pour l'instant on n'est pas encore à ce niveau-là. Non seulement la combativité du monde du travail, mais aussi la conscience des travailleurs n'est pas encore à ce niveau-là. Mais là, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Bah, il vaut mieux s'intéresser aux choses qui dépendent de nous. Ça ne dépend pas de nous de déclencher des grèves. Ça ne dépend pas de nous de déclencher des révoltes. Ça ne dépend pas de nous de déclencher même des révolutions. Quand on regarde les Gilets jaunes, ils se sont mis dans la rue. C'est pas un parti politique, ni un syndicat, ni une association qui les a organisés et qui les a appelés à descendre dans la rue. C'est Emmanuel Macron, le détonateur de cette affaire-là. C'est lui la cause du mouvement des Gilets jaunes. Quand on regarde en Algérie, les millions de travailleuses et de travailleurs qui descendent dans les rues tous les vendredis, mais pas que les vendredis, ils sont descendus dans la rue quand il y a eu cette annonce que Bouteflika, bon, il n'avait pas la parole parce que je crois qu'il ne peut même plus parler, qu'il allait refaire un cinquième mandat présidentiel. Bon. C'est le pouvoir politique et c'est les décisions du grand patronat qui fait en sorte que bah, y a un moment donné, c'est plus possible et ça descend dans la rue et ça fait grève. L'autre problème, à nous, en tant que militants, c'est de défendre des revendications, de défendre des objectifs de lutte qui seront indispensables pour que les intérêts des travailleurs soient réellement défendus. Et au-delà qu'ils soient réellement défendus, qui poussent l'avantage des travailleurs, quand ils seront en bagarre, le plus loin possible. C'est-à-dire qu'ils permettent aux travailleurs de contester la position dominante de ces milliardaires et de cette bourgeoisie sur l'ensemble de la société. Et c'est ça qui est très important dans ce qu'on fait aujourd'hui à travers cette élection européenne. Mais on le fait en dehors des élections, on le fait avant et puis on continuera à le faire après, à défendre ces idées qui nous paraissent fondamentales. Alors je vais finir là-dessus. Des mobilisations, il va y en avoir. Des contestations, il y en aura d'autres. Là, on vit actuellement la mobilisation des Gilets jaunes. Mais vu ce que Macron prépare et vu ce que nos patrons ils nous préparent, de toute façon, il y aura de quoi descendre dans la rue. Il y aura toutes les raisons du monde pour descendre dans la rue et puis pour faire grève et puis pour contester cette politique. Nous, à Lutte ouvrière, c'est ce qui fait notre spécificité, parce qu'on est communiste, parce qu'on est révolutionnaire. On mise sur les contestations de la classe ouvrière, du monde du travail. Pourquoi ? Un, parce que c'est une évidence pour nous, le changement ne peut venir que par le bas. On l'a vu à travers les Gilets jaunes, on l'a vu à travers l'Algérie, le Soudan. Et aussi parce que, et surtout, essentiellement, parce que les travailleurs, ils sont au cœur du système. Ils sont au cœur des entreprises. Ils sont au cœur de la fabrication des richesses. Ils sont incontournables dans le fonctionnement de la société. Ça veut dire que si on veut contester, il faudra contester le système. Il faudra contester l'organisation économique de cette société. Ça ne peut passer que par les mobilisations des travailleurs. Parce que justement, ils sont vraiment au cœur de la place et au cœur du système. Ils sont en première ligne, ils sont vraiment... Et ils ont cette capacité sociale, cette place dans l'économie qui est incontournable pour pouvoir agir et peser par leur mobilisation sur les décisions et sur les événements. Voilà, c'est pour ça que... on se présente avec ce slogan « Contre le grand capital, le camp des travailleurs », parce que pour nous, c'est incontournable. Et c'est vrai qu'on est les seuls à parler du camp des travailleurs, à dénoncer cette bourgeoisie, à dénoncer le capitalisme, et qu'il faudrait pour l'ensemble de la société, mais même pour l'ensemble de l'humanité, construire, changer fondamentalement la société et construire une autre société pour que l'humanité puisse commencer réellement son histoire. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais dire. Maintenant, je vous propose de passer au débat. Bon.